The Conversation France.
Bienvenue dans ce nouveau podcast de The Conversation France. Je suis Jennifer Gallet, chef de rubrique environnement pour The Conversation, et je vous propose aujourd'hui d'aborder la question de l'urgence écologique. Cette expression, nous la rencontrons désormais chaque jour, à mesure que les effets dévastateurs des activités humaines sur le système Terre, documentés toujours plus précisément par les scientifiques, s'accélèrent et s'intensifient. Que ce soit sur le front climatique ou celui de la biodiversité, la situation s'aggrave et commanderait d'agir au plus vite. Pour évoquer les différentes dimensions de cette urgence et la questionner, nous avons réuni trois spécialistes qui ont conduit des travaux sur cette question dans le cadre de la chaire du Collège des Bernardins, Laudato Si, pour une nouvelle exploration de la Terre, une chaire lancée en juin 2021. Grégory Quenet, bonjour. Vous êtes historien de l'environnement à l'Université Saint-Quentin en Yvelines et titulaire de la chaire Laudato Si.
Bonjour Jennifer.
Veronica Calvo-Valenzuela, bonjour. Vous êtes anthropologue et membre associé de la chaire Laudato Si.
Bonjour Jennifer.
Ulrich de Gélis, bonjour. Vous êtes directeur du pôle de recherche du Collège des Bernardins et directeur de la chaire Laudato Si.
Bonjour Jennifer.
Alors avant d'entrer dans le vif de notre discussion, est-ce que vous pourriez, Grégory, nous présenter la chaire et ses travaux ?
La chaire a commencé en juin 2021, mais en réalité, elle a été précédée de 2 années de travail menées par Bruno Latour et Frédéric Louzeau sur l'insensibilité écologique. Puisque la question, c'est comment se fait-il, alors que les alertes se multiplient, que nous fassions non seulement pas la même chose, mais plus encore pire, comme si un système qui était à remettre en cause se durcissait. Cette question de l'insensibilité écologique a conduit à proposer la direction de la chaire à un historien, ce qui peut paraître assez étonnant. En réalité, il ne s'agissait pas de mener des travaux d'historien, je les mène dans mon université, dans mon laboratoire de recherche, mais il s'agissait plutôt de trouver une sorte de fil directeur qui permette d'unir, de faire converger tout un tas de réflexions. Tout un tas de réflexions qui ne sont pas non plus de l'expertise écologique, puisque nous n'avions pas une antériorité technique sur des sujets très, très précis. Et donc nous avons fait, c'est ce que j'ai proposé, quelque chose de beaucoup plus radical, qui est de considérer que si... comme cela est dit si souvent, nous devons changer de civilisation, eh bien prenons cette question véritablement au sérieux dans ce qu'elle a de plus profond. Changer de civilisation, ça veut dire transformer notre temps, notre espace et notre manière de faire du commun. Ce sont les trois temps de ces 3 années de la chaire. Comment, dans quel nouveau temps sommes-nous entrés ? Avec la mise en mouvement des temps de la nature qui sont rentrés dans l'histoire humaine ? Comment ce nouveau temps vient-il faire exploser l'espace au sens d'une étendue homogène et sans limite qui était celle de la globalisation, pour lui substituer une collection de lieux dans leur spécificité ? Et enfin, la question la plus redoutable, comment à partir des lieux et de leur diversité et leur spécificité, peut-on proposer une forme de commun qui ne soit pas... eh bien, un repli sur soi ou une fuite en avant comme seule solution. Pour ce faire, nous avons procédé en apparence de manière classique, avec un séminaire, avec des journées d'études. Mais en réalité, le fonctionnement n'allait pas du tout, parce que les Bernardins sont un lieu qui est à la fois dans l'académie, mais en même temps en dehors, puisque ce n'est pas une université, il n'y a pas de poste permanent. Et donc, on peut se permettre de faire des choses tout à fait étranges. Nous avons fait des visites de terrain, se rendre sur un lieu pendant une semaine et apprendre à décrire autrement la nature et à l'observer. Nous avons mené un séminaire, mais fermé au public, strictement sur invitation, pour avoir une parole libre et déliée et qui tente des choses. Nous avons mené des journées d'études, qui étaient une ouverture, mais comme des points de rencontre et moments de rencontre entre des chercheurs et puis des gens qui sont d'un autre monde. Encore récemment, par exemple, la matinée d'études avec l'équipe de François Ruffin autour d'une économie de guerre climatique. Et enfin, nous avons organisé des expositions, non pas comme une illustration d'un travail scientifique et qui arrivera après, mais plutôt comme une sorte de travail conjoint, de processus créatifs avançant en parallèle.
The Conversation France.
Dans le cadre de la chaire, il y a aussi des ateliers qui ont été conduits par vous, Véronica. Alors, ces ateliers, ils sont intitulés « Où atterrir ?» En quoi consistaient-ils ?
Les ateliers « Où atterrir ?» reprennent le titre de l'essai de Bruno Latour de 2017, « Où atterrir ?» Et ils reprennent aussi la méthodologie que Bruno Latour prône dans cet essai, qui est celle de la description, de l'autodescription des territoires. Donc, c'est des ateliers qui proposent des exercices de description pour que chacun soit en mesure de décrire ses propres conditions d'existence et par là, de pouvoir décrire le territoire où il habite. Ils sont conçus en parcours, un parcours en trois étapes, un parcours qui veut accompagner la transformation à laquelle appelle l'encyclique du pape François Laudato Si, qui est une transformation intérieure, et qui donc part d'une première étape qu'on a appelée « observer », par des exercices d'attention, d'observation. On va se rendre sensible à nos conditions d'existence. Une deuxième étape, s'orienter, où l'on va discerner des choses auxquelles on tient absolument, qu'on souhaite protéger et qui sont menacées. Et dans une troisième étape, œuvrer, c'est-à-dire mettre en œuvre une action concrète à partir de ces descriptions et de ces discernements.
Alors, on entend beaucoup parler de Laudato Si. C'est le nom que porte la chaire, Laudato Si, pour une nouvelle exploration de la Terre. Est-ce qu'on pourrait, Olric, resituer en quelques mots la portée de cette encyclique qui se nomme Laudato Si et qui a été prononcée par le pape François en mai 2015 et qui donne donc son nom à la chaire? En quoi ce texte marque un tournant dans la prise de conscience écologique?
Alors en fait, le texte de Laudato Si était publié, donc, comme vous l'avez dit, en mai 2015, à quelques semaines de distance de l'accord de Paris qui a été signé, donc, comme vous le savez, en décembre 2015 à l'occasion de la COP21. Et c'est sans doute la proximité temporelle de ces deux événements qui a donné à l'encyclique Laudato Si une telle résonance bien au-delà des cercles habituels de l'Église. Alors qu'est-ce qui a particulièrement marquer les esprits dans ce texte de Laudato Si? Je voudrais citer trois choses très très rapidement, mais qui sont aussi en rapport en fait avec ce que nous faisons dans notre travail. La première chose qui est vraiment frappante dans cette encyclique, c'est le niveau de radicalité en fait de l'analyse du pape. C'est-à-dire que le pape ne s'arrête pas à des constats classiques à propos du capitalisme ou de la technologie. Évidemment, il en parle parce que ce sont des points qui sont importants, mais il descend bien plus profondément dans l'analyse jusqu'à viser la violence qu'il y a au cœur de l'homme. Et le diagnostic du pape, c'est de dire que la crise écologique est liée à cette violence. Ça, c'est vraiment un point que je trouve très marquant. Le deuxième point qui est véritablement marquant, c'est que le pape noue l'une à l'autre, de manière très frappante, crise écologique et crise sociale. Avec une phrase que vous trouvez au numéro 49 de l'encyclique, hein, le cri de la terre et des pauvres, qui a particulièrement marqué Bruno Latour, en particulier, nous en reparlerons peut-être tout à l'heure, mais la crise écologique n'est pas simplement une crise radicale, mais c'est une crise aussi de l'altérité. Le troisième point que je trouve extrêmement important et qui pour nous aussi a été mobilisateur dans le collectif de la chaire, c'est que Laudato Si est un texte qui parle de l'espérance. Ce n'est pas un texte en fait qui promeut une vision désespérante, presque collapsologiste, si vous voulez, de la crise écologique. Non, elle propose, l'encyclique propose des lieux où on peut retremper son énergie pour l'action, que ce soit dans le domaine politique, que ce soit dans le domaine de la recherche scientifique ou aussi dans le domaine de la spiritualité, tout le chapitre 6 de l'encyclique est consacré à cela. Et le dernier point qui est particulièrement intéressant dans cette encyclique et qui marque là aussi un tournant, c'est un point qui s'adresse particulièrement aux théologiens, c'est que le pape veut clôturer le débat très classique qui avait été initié en 1967 par Lynn White, dans lequel cet historien américain accusait le christianisme d'être pour une bonne part responsable du réchauffement climatique. Alors le pape donne raison pour une part aux arguments de Lynn White et appelle les théologiens à reprendre sérieusement et paisiblement d'ailleurs le travail de l'exégèse et de la tradition chrétienne pour promouvoir une pensée chrétienne, une réflexion qui soit sensible aux cris de la terre et des pauvres.
Venons-en maintenant plus précisément à cette notion qui nous occupe aujourd'hui, la notion d'urgence écologique. Et pour en parler, Grégory, vous nous avez apporté la couverture d'un magazine des années 70. Alors, est-ce que déjà vous pouvez nous décrire cette couverture ?
C'est une couverture du magazine Actuel, un des titres phares de la contre-culture des années 70, fondé par Jean-François Bizot. Et ce numéro, le numéro 5 plus précisément, s'intitule « Burke, l'écologie ». Et avec un dessin de Crum, il montre deux personnages qui sont assis sur le capot d'une voiture, sous les eaux, pollués à l'extrême, envahis de déchets, avec des rats qui plongent dedans, et l'un des deux demande à l'autre « c'est quoi l'écologie ?»
Alors bah justement, qu'est-ce que ça nous raconte, cette couverture, et au-delà de l'aspect un peu anecdotique d'aller reprendre voilà, ce titre, ce magazine qui est paru il y a près d'un demi-siècle, qu'est-ce que ça nous dit sur le temps écologique ?
Ça nous dit deux choses. D'abord, qu'il y a eu dans le passé des mobilisations écologiques. On est dans les années 1970, que l'on a oublié. Et donc, la deuxième chose, plus profondément, c'est qu'elle nous pose la question suivante. Comment se fait-il qu'il y ait, comme cela, dès qu'on regarde en arrière, des mobilisations écologiques qui ont été très fortes et qui ensuite sont retombées et ont été oubliées? On pourrait d'ailleurs donner d'autres exemples. Les années 1970, c'est aussi la naissance du champ de recherche dans lequel je m'inscris, l'histoire environnementale, qui a un demi-siècle, né aux États-Unis. Mais on pourrait penser aussi à 2009, la COP de Copenhague, qui avait suscité de grands espoirs et une très grande désillusion après. Comment se fait-il que l'écologie soit comme forme de mobilisation, ces pics qui consistent à dire « pour la première fois, nous avons compris, plus jamais nous ne ferons cela », qui ensuite retombent et donnent même malheureusement, il faut bien le dire, des comportements encore plus accentués, comme s'il apparaissait que, eh bien, il était impossible de transformer le système. On peut donner une première explication qui est un peu superficielle, qui est la difficulté de l'organisation d'un mouvement, etc. Mais bien plus que les questions d'organisation, il y a en fait un certain temps. C'est que le temps écologique, tel qu'il s'est constitué dans la mobilisation, est un temps de l'urgence, le temps de la césure qui vient rompre la continuité par une alerte, mais qui du coup produit lui-même les conditions de son mouvement, de son extraterritorialité du temps des sociétés. Et donc, de fait, toute l'histoire de l'écologie est cette histoire de ces déceptions continues et de cette absence de mémoire. Et donc, cette matrice du temps écologique, elle est en fait hors du temps et même, si je vais encore un peu plus loin, lorsque les premières formes de conscience environnementale se sont nées aux États-Unis dans les années 1860, autour du mouvement des parcs naturels, puis du livre de George Perkin Marsh, Man and Nature, eh bien, il y a la même chose, c'est une thématique qui est celle du déclin et de la mort des civilisations. Et donc, cette série, voyait de montée et de reflux. Et bien évidemment, toute la difficulté, c'est qu'à chaque fois, l'écologie fonctionne comme si elle s'en passait son temps, à effacer elle-même ses propres traces pour recommencer, sans pouvoir capitaliser sur les luttes sociales qui ont précédé.
Alors là, vous nous décrivez le temps écologique comme un temps hors du temps. Est-ce à comprendre que c'est un temps sans durée? Et est-ce qu'on peut revenir un peu sur comment sortir la réflexion sur la crise écologique de cette ornière temporelle?
Parler d'un temps sans durée peut sembler très paradoxal, puisque l'on parle d'un champ qui propose la durabilité comme horizon. Mais regardez très précisément, si on part par exemple de la définition du développement durable, la fameuse donnée par Brundtland en 1987, le développement durable est un développement qui répond aux besoins des générations présentes sans compromettre les besoins des générations futures. En fait, il n'y a pas de durée au sens de processualité de ce que François Hartog appellerait le temps chronos ou le temps du monde. C'est une comptabilité, c'est-à-dire qu'on met en parallèle de manière comptable les générations et les futures et les générations présentes pour qu'il y ait un équilibre entre les besoins des deux. De manière même encore plus triviale, regardez comment tout ce qui nous est présenté comme des solutions durables ne sont pas faites pour durer. Ou tout au moins ne prennent pas en compte ce critère. La voiture électrique, les fenêtres que l'on change, les bâtiments que l'on isole. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, on est en train de rénover les bâtiments qui ont été rénovés énergétiquement il y a 20 ans. Si vous regardez les voitures électriques, mis à part certaines marques très haut de gamme, leur durée de vie est difficile à cerner. Et d'ailleurs même, Pour qu'elle soit rentable, il est dit dans les articles les plus sérieux qu'il faut rouler le plus possible, les utiliser le plus possible, ce qui est le contraire même d'une solution, à mon sens, écologique. Parce que tout vient de ce tour de force qui a consisté à transformer en comptabilité ce qui devrait être en réalité une manière de saisir des trajectoires et de la processualité dans toute sa complexité. Vous verrez. Ça signifie d'ailleurs qu'on a derrière le risque d'une nouvelle forme de productivisme, puisqu'au moment où on parle d'investir massivement dans la transition écologique pour la rénovation des bâtiments, les voitures, des chauffages, etc., eh bien, en fait, on nous annonce déjà que dans 20 ans ou dans 25 ans, il faudra tout recommencer à zéro.
The Conversation France.
Vous évoquiez les travaux de l'historien François Hartog juste avant. Et lui, il a une façon aussi d'aborder cette question de l'anthropocène ou de l'urgence écologique en convoquant la notion de simultanéité. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus cette portée de la simultanéité dans cette question de la crise écologique ?
Oui, le simultané du non-simultané, qui est le concept central du grand livre de François Hartog, Chronos. Mais d'abord, il faut bien comprendre quelle est la démarche de l'historien et ce qu'on peut en attendre. Le moment que nous vivons est unique, il n'a pas d'équivalent. Donc, il ne s'agit pas de dire que déjà dans le passé, des hommes auraient vécu une telle situation. D'ailleurs, ce n'est pas ce que font les historiens, ce n'est pas ça l'histoire. L'histoire, c'est par le dehors et par le passé, penser la spécificité du présent, qui est le lieu à partir duquel on pose des questions au passé pour le réinterroger. Et c'est ce que fait François Hartog avec ce concept de simultané et du non-simultané, qui consiste à définir, eh bien, à repérer ces moments séminaux, ces quelques moments très rares où a surgi le choc de la présence en même temps de deux temps qui ne sont pas censés cohabiter. C'est d'abord, comme il explique, la question d'Ulysse dans l'Iliade, qui cesse d'être lui-même et Ulysse qui se ne reconnaît plus, qui ne sait plus qui il est et dont le barde chante devant lui les exploits d'Ulysse. Et là, il se met à pleurer, reconnaissant un autre être qui n'est plus lui-même. C'est ensuite cette matrice qui est reprise au moment des grandes découvertes et de l'exploration du monde par les Européens, où ils découvrent des peuples qui ne sont pas censés avoir vécu en même temps qu'eux. Et pour ceci, ils inventent des opérateurs de neutralisation de cette altérité temporelle, en les définissant soit comme sauvages, soit comme des enfants, en attente d'une civilisation à venir. Et plus encore cela, François Hartog montre comment le simultané du non-simultané a une spécificité, a une résonance très forte, une spécificité dans le temps chrétien qui consiste à vivre en même temps dans deux temps. C'est saint Augustin, la cité de Dieu et la cité des hommes, le comme ne pas de saint Paul. À partir de cette figure, qui est donc une figure qui a été pensée à d'autres moments historiques, eh bien, il est possible de la convoquer pour chercher un opérateur qui nous aide à comprendre, à saisir, à domestiquer ou à habiter plutôt ce moment unique dans lequel nous sommes, ce moment unique dans lequel nous sommes, où le temps de la nature, qui était censé être un temps de longue durée, presque immobile au regard des vies humaines, eh bien désormais est rentré dans les vies humaines qui elles-mêmes ont produit ce nouveau temps par une série de boucles. On a donc bien un simultané du non-simultané. Et là, le très très grand avantage de cette notion, c'est qu'elle permet d'éviter d'autres opérateurs qui sont des opérateurs beaucoup plus de simplification, qui consistent à penser que c'est un temps synchronisé ou tout uniformisé, ou alors que de penser que c'est un temps de l'effondrement, comme un arrêt brutal, où on repartirait à zéro. Simultané du non-simultané garde toute la radicalité et la difficulté de ce qu'il y a à penser et à habiter.
Alors à vous écouter, on peut se demander si un autre temps écologique est possible, et à quelles conditions ?
Déjà, dire qu'un autre temps écologique est possible, c'est formuler une réponse écologique à partir du temps. Ce qui n'est pas le chemin habituel. Ce qui n'est pas le chemin habituel, puisque l'écologie, au sens de la prise de conscience et d'un mouvement politique, s'est constituée à partir de l'idée d'une sorte de paradis perdu, de paradis originel, que l'on appelle ceci wilderness, la nature sans les hommes, que l'on appelle ceci Eden, que l'on appelle ceci zone protégée. Et ce paradis perdu à retrouver ou à protéger ou à purifier. Un des premiers titres connu de l'écologie politique aux États-Unis, le livre de Leo Marx en 1968, s'intitulait « La machine dans le jardin ». Et c'est bien, ça montre bien cette matrice spatiale, c'est-à-dire qu'il y avait le jardin d'Éden, la nature avant les êtres humains, et ceux-ci ont fait rentrer dedans un certain nombre d'éléments qui la détruisent, à commencer par la technique, la machine et toutes les structures qui permettent de s'en saisir et d'accumuler de la richesse et du capital. Il faut le dire que cette matrice, elle a été efficace pendant assez longtemps, puisque pendant plus d'un siècle, un siècle et demi, elle a permis de fonder des zones protégées. Elle a permis de mettre sous cloche certaines parties d'environnement. Elle a permis de penser la valeur aussi de la nature, puisque dans cette matrice spatiale, il y a l'idée de quelque chose que les êtres humains n'ont pas créé et dont la valeur n'est pas intrinsèquement et proprement humaine. Cependant, ce modèle a atteint ses limites. Il a atteint ses limites d'abord parce qu'il reproduit une forme de séparation nature-culture. C'est une idée suffisamment aujourd'hui diffusée pour que je n'ai pas besoin d'y revenir. Et donc, il met à distance, produisant donc les effets de l'appropriation, en appelant nature quelque chose qui serait donc extérieur aux sociétés humaines. Et ensuite, parce que tout simplement, même protégé, même mis sous cloche, même étendu à peut-être 30% des terres émergées, eh bien en réalité, ces espaces-là sont affectés. Sont affectés par tout ce qui se passe autour, cette processualité, c'est tous ces changements climatiques et environnementaux. La question centrale devient donc, si on prend acte de cela, est-ce qu'on peut revenir à la façon dont le naturalisme a des outils qui sont des outils critiques et qui permettent de penser un autre chemin. Cet outil critique qui apparaît en même temps que la séparation nature-culture, c'est l'histoire. C'est l'histoire, c'est-à-dire le fait de se penser dans le temps et de produire les conditions de description des changements qui se produisent. C'est un outil donc à la fois, disons, descriptif et analytique. Et même plus que ceci, il est anthropologique. Puisque ce qu'introduit la question du temps, et c'est ça le temps écologique que l'on explore dans la chaire, c'est que serait un temps partagé, un temps commun entre toutes les entités qui habitent la planète, par-delà leurs différences de nature, leur agentivité différente, leur processualité. Et c'est une toute autre manière de définir le commun que ce que l'on fait habituellement.
Véronica, cette urgence écologique dont nous venons d'essayer de saisir les contours, comment s'est-elle invitée dans les ateliers que vous avez animés dans le cadre de la chaire ?
Justement, dans les ateliers, on prend la question par un autre biais. C'est-à-dire que, puisque le but est quand même celui de faire levier d'action, c'est-à-dire de sortir de cette paralysie qui tient à un jeu d'échelle compliqué, enfin, la crise climatique, elle engage un jeu d'échelle qui est compliqué à saisir, d'où l'intérêt de partir de la description de ces conditions d'existence, eh bien, justement, on ne peut pas, pour décrire, être dans une urgence. Il faut prendre le temps de s'arrêter, d'observer, de se rendre attentif. Et ça, c'est la première étape. Sans ça, sans ce temps qui demande un ralentissement pour comprendre comment on habite, de quoi a-t-on besoin, qu'est-ce qui a besoin de nous, on ne peut pas, on doit sortir en quelque sorte ou mettre en suspens l'urgence à laquelle en fait on est appelé. Mais effectivement, ce n'est qu'une étape. Ensuite, il s'agit de discerner quelque chose d'un peu plus précis, un attachement concret qui lui-même va appeler une action à mettre en place. Et c'est là où on peut retrouver le temps commun. Mais pour retrouver ce temps commun, il faut aussi reconnaître un espace et un territoire qui n'est pas que à soi, mais dont on dépend et qui dépend de nous.
Véronica, il y a d'autres parmi les participants aux ateliers que vous avez encadrés pour ces exercices d'autodescription. Qu'est-ce qui ressort ? Enfin, vous avez des exemples un peu concrets ou de citations de ce qui ressort de cette expérience ?
Il y a un effet qui est partagé de façon très générale par les participants de ces ateliers, qui est le fait de sentir que le quotidien est devenu invisible, enfin, énormément d'éléments du quotidien qu'ils ne voyaient plus sont maintenant redeviennent visibles en quelque sorte. Et ça, ça amène aussi à avoir un sentiment de repeuplement. C'est-à-dire que c'est un quotidien qui est plein de sortes d'entités, de déplacements, d'objets. Ça peut avoir un côté affolant, mais ça a aussi un côté thérapeutique. C'est-à-dire qu'on se rend compte que des choses qui nous font tenir, des relations qui sont là et de choses très concrètes par lesquelles on tient au quotidien. Donc ce repeuplement a un effet en quelque sorte thérapeutique. Il y a un autre effet de ces ateliers qui pour moi est important et qui revient aussi très souvent, c'est l'écoute. Mais disons que c'est des exercices individuels que l'on fait collectivement en séance d'atelier, qui concernent sa propre vie, mais qui sont faits en groupe parce qu'il y a une dimension importante qui est celle d'écouter les expériences que font les autres. Il y a une sorte d'écoute spontanée, une écoute très fine et respectueuse de l'expérience de l'autre qui se met en place sans que d'ailleurs l'animatrice donne une quelconque indication, qui a aussi un effet très bienfaisant chez les participants, c'est l'écoute. Et je pense que ce n'est pas des moindres. C'est un effet très important.
Véronica, là, vous nous décrivez des choses qui relèvent du ressenti, du rapport à l'autre, de l'écoute, d'un certain mieux-être qu'on peut avoir voilà, à pratiquer ces exercices pour se rendre compte de tout ce qui habite autour de nous et avec nous. Mais est-ce qu'il y a des dimensions plus politiques qui apparaissent au cours de ces ateliers ?
Oui, au-delà du fait de freiner un peu l'angoisse qui est liée à l'urgence climatique, il y a des participants qui arrivent aux ateliers en disant « En fait, j'en ai marre que dès qu'on parle d'écologie, on le prenne par le biais politique. » Et en fait, moi, je dis rien. Et petit à petit, pendant les ateliers et dans la description qu'ils font de leurs conditions d'existence, par exemple, quand on fait l'exercice du terrain de vie où ils décrivent comment ils habitent et en même temps, ils décrivent le territoire de subsistance qui est l'envers de ce terrain de vie, c'est-à-dire tous les territoires dont on vit, pas seulement celui sur lequel on vit, mais dont on vit, c'est-à-dire...
Dont on dépend pour
dont
vivre.
Dont on dépend pour vivre. Ils se rendent compte de l'ampleur de la relation et de la situation et de la dépendance. Et c'est là que, sans même mentionner les aspects politiques de la situation, ils apparaissent. Ils apparaissent par la description. Et ça, ça dessine finalement petit à petit un chemin de discernement, qui est donc le travail qu'on fait pendant la deuxième étape du parcours, discernement d'une menace, discernement d'un attachement, qui va ensuite donner lieu à une action. Donc la politique, ou disons le rapport politique au territoire et aux conditions d'existence, se travaille d'exercice en exercice, en filigrane en fait. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de déclarer la portée politique ou la dimension politique de ce travail d'atelier. Elle est déjà en fait... en quelque sorte intégré dans l'ADN du dispositif qui vient d'où il vient. Hein. Tout ça a été pensé avec Anne-Sophie Breitwiller et donc le consortium Waterir piloté par Bruno Latour.
The Conversation France.
Alors, Olric, on vient de voir en évoquant ces ateliers ou atterrir, que la question de la crise et de l'urgence écologique qui nous occupe, elle se trouve intimement liée à la question du territoire, de cet espace dans lequel nous nous situons.
En effet, et il y a quelque chose de très intéressant en fait avec la crise écologique, c'est d'interroger les figures de l'espace dans lequel nous vivons. Je voudrais juste reprendre un livre, je trouve très intéressant, qui a été publié en 2006 par un spécialiste de la mondialisation, Thomas Friedman, et dont le titre est extrêmement évocateur. Il s'appelle « Le monde est plat », « The world is flat » en anglais. C'est un best-seller, ça a été publié et lu par des millions de personnes. Et Thomas Friedman explique dans ce livre qu'il prend conscience que le globe qui a été trouvé d'une certaine manière, en tout cas symbolisé de manière tout à fait particulière avec les premières circumnavigations et la découverte du Nouveau Monde par Christophe Colomb, comme on le sait bien en 1492, mais que ce globe qui porte avec lui l'image d'une nappe humaine qui est capable de recouvrir l'intégralité de la surface de la Terre, à la fois dans une unité et en même temps dans une grande diversité de langues et de cultures, que ce globe, en fait, est connecté et lié à une certaine image de l'humanisme, l'humanisme moderne, et qui est complètement chamboulé, traversé, transformé plutôt par la mondialisation. C'est ce que Friedman appelle l'aplatissement du globe. Qu'est-ce que c'est que l'aplatissement du globe ? C'est tout simplement le fait que ce globe, dont on sait bien d'ailleurs que le symbole va aussi avec tout un élément de violence, de colonisation, etc. Mais ce que ce globe, en fait, en s'aplatissant, produit un espace homogène dans lequel toutes les singularités sont gommées par les procédures de standardisation, de la mondialisation. Et Thomas Friedman est un chantre merveilleux, pour ainsi dire, de cet espace homogène. Alors moi, je ne partage pas du tout son enthousiasme, évidemment, mais je trouve qu'il voit juste quand il parle de l'aplatissement du globe. Et dans ce globe aplati, la question qui se pose, c'est quelle est la nouvelle figure de l'espace que nous amène la crise écologique. Et Bruno Latour, d'ailleurs dans le livre qu'a signalé Véronica tout à l'heure, Où atterrir, appelle une nouvelle figure de l'espace qu'il appelle le terrestre. Alors le terrestre, qu'est-ce que c'est ? C'est la zone critique, c'est-à-dire le lieu où nous vivons, le lieu duquel nous vivons, nous dépendons pour vivre. Et ce terrestre, nous dit Bruno Latour, il faut l'inventorier, il faut le décrire. Ça correspond tout à fait à l'autodescription dans les ateliers que nous a présenté Véronica. Et il faut le décrire, dit Bruno Latour, centimètre par centimètre, tête de pipe par tête de pipe. Pourquoi est-ce qu'il dit ça, Bruno ? Parce que, en fait, ça provoque la prise de conscience que ce terrestre dans lequel nous vivons est en fait traversé de réseaux. De réseaux qui nous nouent, qui nouent les uns aux autres, des humains, des altérités humaines et des altérités non humaines. Et donc, il y a véritablement l'apparition d'une nouvelle figure de l'espace qui n'est pas liée à un humanisme moderne avec ses artefacts et puis ses prolongations éventuellement dans la globalisation, mais au contraire, qui amène une nouvelle figure de l'altérité, ces altérités qui sont prises dans des réseaux que je découvre et avec lesquels j'ai désormais affaire.
Alors avec ce que vous venez de nous dire, c'est-à-dire le rapport qu'on a à l'autre, cette nouvelle dimension spatiale, enfin de territoire où l'on vit, et la question de l'altérité, parce que là ce que vous venez de nous expliquer, c'est que c'est le rapport à l'autre qui commande aussi ces différentes façons d'aborder cette question de la crise environnementale. Alors est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur cette notion de l'altérité que vous placez voilà, comme notion centrale dans la question de l'urgence écologique?
En effet, ce que je trouve très percutant avec cette nouvelle figure de l'espace, comme je le dis, c'est que ça appelle, ça amène au devant de la scène, dans la réflexion, à la méditation, la question de l'altérité. Des altérités qui sont, entre guillemets, proches, c'est-à-dire spatialement proches, mais aussi des altérités qui sont lointaines. C'est-à-dire que les réseaux du terrestre ne sont pas limités simplement au local. Ils n'ont que faire, finalement, des frontières administratives ou nationales. Et par exemple, si vous prenez les rapports du GIEC, on nous explique très bien que ces réseaux parcourent la Terre entière. Et ce qui fait qu'un mode de vie, par exemple, ce sont des choses que l'on sait maintenant très bien, mais un mode de vie extrêmement carboné, par exemple en Occident, peut avoir un impact sur les forêts canadiennes, sur les conditions d'habitabilité en Chine, ou que sais-je. Voilà. Mais ce n'est pas simplement un impact sur ces conditions d'habitabilité au Canada ou en Chine, c'est qu'en fait, ça touche directement l'existence de milliards d'entités humaines et non humaines. Et c'est tout ce réseau d'altérité que la crise écologique nous appelle à reconsidérer. Et c'est pour ça que j'aime bien dire que la crise écologique, en fait, c'est une question qui nous est posée sur l'altérité. Où finalement, les paradigmes technocratiques ou capitalistiques, et on peut penser avec ça impérialistes ou colonisateurs, tout ce que vous voulez en fait, sont autant de manières de nier l'altérité. Tout à l'heure, je faisais allusion à cette analyse très radicale qu'il y a dans Laudato Si, quand le pape nous invite à réfléchir sur la violence qu'il y a au cœur de l'homme, et en fait, cette violence nie l'altérité, nie le prochain. En faisant du mal à mon frère, je fais du mal aussi à la planète. En faisant du mal à la planète, eh bien c'est aussi mon prochain, mon frère, que je lèse. Hein, cri de la terre et des pauvres.
Donc on le voit bien là avec vos explications. En fait, cette urgence écologique, c'est pas du tout une question d'un problème à résoudre, un problème qui attendrait une réponse technique, c'est bien plutôt une urgence à prendre soin de l'autre, du prochain que vous venez de nous présenter. Et ce message, eh bien, on le retrouve au cœur de la parabole du bon samaritain. Et j'aimerais que vous nous reveniez sur cette parabole qui éclaire la question de cette urgence.
Pour bien comprendre la façon dont je trouve que la parabole du bon samaritain est profondément éclairante pour les temps de crise écologique que nous vivons, il faut simplement rajouter une chose, c'est que ce concept d'altérité ou de prochain, mais comme vous l'avez certainement entendu, est un concept enrichi. C'est-à-dire que ce sont des concepts d'altérité, ce sont des notions d'altérité qui inclut altérité humaine et non humaine, parce que tout est lié, comme dit le Laudato Si, ce qui fait que toucher au non humain, c'est aussi par ricochet toucher aux humains, et toucher aux humains, c'est par ricochet toucher aux non humains. Et donc ce concept d'altérité, ce que j'appelle l'enrichissement du concept de prochain, je pense que c'est un des présupposés pour bien comprendre comment est-ce que la parabole du bon samaritain peut entrer en résonance, si vous voulez, avec la crise écologique. Alors cette parabole, on la trouve au chapitre 10 de l'évangile de Luc. Je vous rappelle très très brièvement l'histoire. Il s'agit de l'histoire d'un homme qui est laissé à moitié mort sur le bord du chemin, et puis viennent à passer sur ce chemin-là un prêtre et un lévite qui se détournent parce qu'ils ont peur de commettre une impureté rituelle que leur statut social et légal dans la société juive de l'époque du Christ, en fait, leur empêche de commettre. Et Jésus, en fait, évidemment, dans cette parabole, veut qu'on soit révolté à l'égard de cette situation. Et il met en scène un Samaritain qui, lui, en fait, se laisse toucher précisément de pitié, compassion, et va franchir ses conventions sociales et légales pour s'approcher de ce Samaritain et pour en prendre soin. Alors, quelle leçon peut-on tirer de cette parabole? Eh bien, peut-être ceci d'abord, c'est que le prêtre et le lévite représentent des catégories sociales, des conventions humaines qui sont le fruit de l'histoire, et leur incapacité à s'occuper de l'homme blessé représente d'une certaine manière un piétinement de l'histoire. Dire qu'il y a une urgence là qui n'est pas prise en compte par ces deux personnages-là et qui sont comme insensibles, rendus insensibles à l'égard de ce personnage qui est là au bord du chemin. Et Jésus met en scène le Samaritain comme quelqu'un qui va finalement relancer l'histoire, mais dans une toute autre direction, sur de nouvelles bases. Et quelle est la base qui permet à ce Samaritain de relancer l'histoire et finalement de s'occuper de cet homme qui est là à côté du chemin? Eh bien, c'est précisément la figure de l'espace. Ce qui est très impressionnant dans la parabole, c'est que Jésus utilise le mot grec « plesion », qui veut dire le prochain, mais c'est celui qui est spatialement proche, d'où l'intérêt de réfléchir par altérité et par proximité, alors proximité immédiate, géographique, mais proximité aussi étendue. Je parlais tout à l'heure des forêts du Canada ou des conditions de vie, d'habitabilité en Chine, etc. Ce sont autant de manières d'étendre, si vous voulez, le concept de prochain, voyez. Mais précisément, ce sont ces nouvelles figures de l'espace qui relancent l'histoire et qui permettent à ce Samaritain de prendre très au sérieux l'urgence qui s'impose à lui et qui lui permet de franchir les conventions sociales que le prêtre et le lévite n'avaient jamais réussi à prendre. Voilà pourquoi et voilà comment est-ce que je trouve que cette parabole rentre particulièrement en résonance avec l'urgence écologique, à condition qu'on se laisse travailler par cette nouvelle figure de l'espace qui nous est proposée.
The Conversation France.
Grégory, pour conclure, cette disparition de l'autre dont nous parle Ulrich, vous la voyez, vous aussi, dans cette métrique universelle qui est devenue le CO2 et dont on parle tous les jours à propos de la crise climatique. Et pour vous, en fait, cette métrique désincarnée, ça constitue une faiblesse des mobilisations écologiques et ça constitue aussi un problème dans la manière dont l'Occident se pense central, se pense comme mesure de cette action climatique.
Entendons-nous bien sur la critique. Cette métrique universelle du CO2 est absolument nécessaire. Sinon, on n'aurait pas pu modéliser le climat de la planète pour saisir les effets du changement climatique anthropique et faire de prévisions sur ce que sera la planète en 2030, en 2050 ou la fin du siècle si on continue sur la même trajectoire. Elle est aussi nécessaire pour penser une répartition des efforts qui ne doit pas être la même selon les différentes parties du monde et selon les différentes classes sociales, bien évidemment. Ceci étant dit, la question qui se pose, c'est de savoir comment cette métrique, qui est un outil extrêmement précieux, peut se traduire en une politique. Et là, les choses sont plus difficiles parce que cet effet de synchronisation du monde a pour effet d'effacer les différentes formes d'altérité dans ce qu'elles ont de véritablement propre, c'est-à-dire non pas simplement une projection fantasmée sur un autre, non pas simplement un Indien écologique ou la figure de population organique qui serait en harmonie avec la nature, tandis que ceux qui émettent du CO2 de façon dans de fortes proportions ne le seraient pas. Non pas non plus un sauvage, c'est extrêmement étonnant de voir aujourd'hui ce retour et ce succès du sauvage, alors qu'une des grandes leçon de l'histoire environnementale, c'était de nous apprendre à nous méfier de cette catégorie qui, historiquement, a servi à légitimer l'appropriation de la terre des populations qui y vivaient, en disant certes, il y a des habitants, mais au fond, ils vivent dans une nature sauvage parce qu'ils n'ont pas à modifier, et donc on peut très bien la leur prendre et les déplacer un petit peu plus loin. Alors, effectivement, donc il y a cette faiblesse, et cette faiblesse, elle rapporte aussi un autre élément, c'est qu'elle donne l'impression que les pays émetteurs historiquement sont devenus à nouveau le moteur de l'histoire, le moteur, alors que les grandes leçons des sciences sociales depuis ces 20 dernières années ont consisté au contraire à pluraliser les changements historiques, à pluraliser les lieux de la modernité. Entendons-nous bien aussi, hein. Ça ne signifie absolument pas que les pays émetteurs historiquement n'ont pas une responsabilité supérieure à d'autres pays. Ce n'est absolument pas le cas, hein, puisqu'il s'agit toujours à la fois de peser et de comprendre les deux qui vont ensemble. Mais la difficulté, l'enjeu crucial, c'est de voir comment aujourd'hui les moteurs du changement historique ne sont plus en Occident. Ils sont dans d'autres parties du monde. Et c'est une très bonne nouvelle. C'est une excellente nouvelle. C'est une excellente nouvelle de voir qu'une partie de l'humanité est sortie de la pauvreté ces 20 dernières années. Mais toute la difficulté, c'est que si cette sortie de la pauvreté s'est traduite et se traduit par une forme de développement qui consiste à emboîter exactement la même voie que celle que nous sommes en train de critiquer aujourd'hui, eh bien, ceci n'est pas tenable. Et c'est là que la question de la métrique a ses limites, parce qu'en fait, une métrique, je reprends les termes du chercheur Antonin Potier, n'est rien d'autre qu'une convention d'attribution. Et ce dont il faut discuter, ce n'est pas des chiffres, mais de comment on les attribue. Est-ce que le CO2 appartient à celui qui consomme ? Est-ce que cela appartient à celui qui accumule du capital, à celui qui possède les usines, à celui qui transporte, à celui qui donne des ordres? Bien évidemment, vous voyez, la réponse, selon la réponse à tes questions, n'a pas du tout la même chose. Ou est-ce qu'il n'appartient pas un peu à tout le monde? Et le protocole de Kyoto, en 1997, avait posé ce terme, une responsabilité commune mais différenciée. Eh bien, nous n'avons toujours pas répondu à cette question. Qu'est-ce que c'est une responsabilité commune mais différenciée? Et c'est tout l'enjeu de ce qui nous attend dans les décennies à venir.
Ulrich de Gelis, Veronica Calvo-Valenzuela, Grégory Kenem, merci beaucoup à vous trois pour vos éclairages. Je rappelle que vous êtes membre de la chaire Laudato Si du Collège des Bernardins, initiée en 2021 et qui prendra fin au printemps 2024. Pour ceux et celles qui voudraient continuer à explorer les travaux de la chaire, vous pouvez vous rendre sur les pages très riches consacrées à tous les travaux de la chaire sur le site des Bernardins et continuer à réfléchir à l'urgence écologique en retrouvant tous nos articles sur ces sujets sur le site The Conversation. Merci.
The Conversation France.